Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Job, chapitre 27, tout le chapitre. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, « Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. » Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait pas de reproche sur aucun de mes jours, que mon ennemi soit comme le méchant et mon adversaire comme l'impie. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir? Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Je vous enseignerai les voies de Dieu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mais vous les connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laisser aller à de vaines pensées? Voici la part que Dieu réserve aux méchants. L'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive, et ses rejetons manquent de pain. Ceux qui échappent sont enterrés par la peste et leurs veuves ne les pleurent pas. S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme la boue, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêt. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Sa maison est comme celle que bâtit la teigne, comme la cabane que fait un gardien. Il se couche riche et il meurt dépouillé. Il ouvre les yeux et tout a disparu. Les terreurs le surprennent comme des eaux. Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'Orient l'emporte et il s'en va. Il l'arrache violemment de sa demeure. Dieu lance sans pitié des traits contre lui et le méchant voudrait fuir pour les éviter. On bat des mains à sa chute et on le siffle à son départ. Alors, on va demander à l'Éternel de bénir le sermon. Notre Dieu, on vient en ta présence et on sait que absolument tous les chapitres de toutes les Écritures ont des choses à nous enseigner. Et Seigneur, bien sûr, le chapitre 27, le Job n'échappe pas. Et tu as des choses à nous enseigner à l'intérieur de ce passage. Alors, Seigneur, je te prie que ton esprit nous guide, nous éclaire, nous illumine, nous ouvre l'intelligence, les oreilles spirituelles à comprendre ce que tu veux nous enseigner et surtout à mettre ces choses en pratique dans notre vie de tous les jours parce que, Seigneur, on en a vraiment besoin. On te demande ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Amen.
Alors, j'ai intitulé le sermon d'aujourd'hui « Job affirme la victoire de son argumentation sur celle de ses trois ennemis ». Alors, quand on regarde l'histoire de Job, on se souvient qu'au début, il y avait eu Satan qui s'était approché de Dieu et avait demandé au Seigneur d'éprouver Job, donc de permettre qu'il perde ses biens, permettre qu'il perde ses enfants, de permettre qu'il perde sa santé. Et Dieu avait accordé cela à Satan et lui avait tout fait perdre ces choses-là. Donc, pour Job, il était dans un état de très grande détresse humaine, de très grande souffrance. Ses trois amis se sont approchés. Leur but était correct, ils voulaient le consoler, mais on sait qu'au cours des chapitres suivants, on a étudié ça, ils étaient des très piètres consolateurs. Pour la simple et bonne raison qu'ils ne pouvaient pas comprendre qu'un homme pouvait souffrir autant et que Dieu puisse avoir permis des choses aussi grave dans sa vie sans que cela soit rattaché à une vie de péché. Et ils étaient continuellement en train de l'accuser. Ben, si tu vis ça, c'est parce que tu as vécu dans le péché et tu ne fais que récolter qu'est-ce que tu as semé. Malgré les nombreuses protestations de Job, il n'avait jamais réussi à les faire changer d'idée. Et la semaine dernière, on avait vu que c'était le dernier discours des trois amis. Donc, on avait vu que ça marchait par... Les trois amis ont parlé. Un parlait, Job répondait. Un autre parlait, Job répondait. Il y avait trois cycles comme ça. Et là, on est arrivé à la fin du troisième cycle. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que Job comprend qu'il a réussi à clouer le bec à ses trois interlocuteurs. Autrement dit, pourquoi j'affirme, le titre du sermon aujourd'hui, Job affirme la victoire de son argumentation sur celle de ses trois amis. Donc, si on regarde l'argumentation de Job au cours des chapitres suivants, et qu'on regarde celle de ses amis, Job avait pleinement conscience, arrivé au chapitre 27, qu'il avait vaincu ses interlocuteurs en ayant des arguments tellement forts qu'il n'était pas capable de répondre. Alors, Job ici prend conscience qu'il a fini par vaincre ses amis par la force de ses arguments. Alors, ces derniers, ces trois amis, ont été réduits au silence. Alors, quand tu as eu des obstinations avec quelqu'un, puis tu as réussi par la force de tes arguments à le réduire au silence, bien sûr que peut-être que c'est le moment pour lui de faire des choses, de rappeler certaines choses. Alors, la première chose qu'il va faire dans les versets 1 à 4, il va proclamer son innocence et son intégrité. Donc, il affirme la victoire de son argumentation sur celle de ses trois fils, sur ses trois amis, c'est-à-dire par la proclamation, versets 1 à 4. Il va proclamer qu'il est innocent et que l'intégrité dont Dieu avait parlé au début de Job, il la maintient encore. Ce n'est pas à cause que vous m'accusez continuellement que je ne suis pas intègre pour autant. Alors, c'est ça les principales idées du verset 1 à 4. Alors, il va maintenir cette innocence-là et son intégrité encore là d'une façon haut et fort. Autrement dit, il ne s'est pas laissé influencer par les arguments de ses trois amis. Deuxième chose qu'il va faire, versets 7 à 10, il va protester. Donc, la protestation, il va utiliser l'argument de la protestation, versets 7 à 10. Il va protester vigoureusement contre les allusions et les fausses accusations de ses ennemis. C'était quoi les allusions et les accusations que ses ennemis avaient faites planer au-dessus de lui? En voulant dire, tu es un hypocrite. Si Dieu t'envoie des épreuves aussi sévères, c'est parce que tu as agi hypocritement puis tu as vécu dans le péché et Dieu t'envoie ça. Et lui, il veut protester. C'est pas vrai que je suis dans cette situation-là et les allusions et les fausses accusations que vous avez laissées planer au-dessus de ma tête sont complètement fausses. Et la troisième idée, c'est vraiment celle de la profession, versets 11 à 23. Il va professer quoi? Il va professer sa foi inébranlable dans le gouvernement divin. Et là, il faut vraiment se souvenir de ce qu'on a vu dans les leçons précédentes si on veut comprendre ce qu'il est en train de faire ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'à un moment donné, il avait dit aux trois amis, « Comment pouvez-vous expliquer que Dieu semble ne pas avoir de réaction face à la méchanceté des hommes et que Dieu ne semble pas punir sur la terre et temporellement les choses mal qu'ils font? » Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les amis n'avaient pas réussi à répondre à ça. Et une des choses qu'ils avaient avancées, c'est que les gens... Les riches font du mal, ils exploitent leurs amis, leurs prochains, ils ne sont pas bons envers les veuves ni les orphelins. Et là, il fait toute une série de choses, il leur dit, mais il est possible que sur la terre, une personne ait été riche et que Dieu n'a pas semblé avoir apporté un jugement sur leurs actions. Et là, à partir du verset 11, aller jusqu'au verset 23, il va se remettre à dire que oui, ça peut arriver qu'une personne fasse du mal toute sa vie puis que Dieu ne le juge pas terrestre sur la terre et temporellement, donc dans la vie qu'il mène sur la terre. N'est-ce pas qu'on voit ça de nos jours encore? Des gens qui font du mal de façon constante. Puis on dirait qu'ils sont toujours, ils nagent dans le bonheur, ils nagent dans l'argent, ils ont des enfants, ils sont en santé. Et on dirait que Dieu ne les punit pas. Et là, à partir du verset 11 jusqu'au verset 23, c'est comme s'il voulait reviser qu'est-ce qu'il avait déjà dit dans d'autres passages. Et là, il va dire, oui, ça arrive qu'une personne traverse toute sa vie sans que Dieu juge, temporellement et sur la terre, mais là, il va vraiment dire, oui, mais des fois, il les juge sur la terre. C'est tellement fort le contraste entre ce qu'il avait déjà dit, que Dieu semble ne pas juger, et ce qu'il affirme dans les versets 11 à 23, que certains auteurs ont dit que c'est de la contradiction. Mais ce n'est pas de la contradiction. Il est en train de dire que ça arrive que certains hommes traversent la vie terrestre, la vie temporelle, sans que Dieu n'exerce trop ses jugements, mais que parfois aussi, il permet que ces gens-là connaissent les jugements de Dieu sur la terre, mais ce qu'il est en train de vouloir développer surtout, c'est que c'est surtout dans l'autre monde qu'ils vont connaître le jugement divin. Alors, ce n'est pas des contradictions. Si on veut regarder un petit peu comment Dieu avait vu les interventions, les tentatives de consolation des trois amis, on se doit, on le ramène à toutes les leçons, mais c'est important. Parce que Dieu vient nous dire que les trois amis de Job, Dieu juge très sévèrement leurs interventions. Dans Job 42, verset 7, il nous dit, « Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job. » Ça, c'est vraiment à la fin du chapitre, à la fin vraiment du livre. Quand Dieu a eu questionné Job et que Job n'a pas pu répondre, il s'est rendu compte qu'il avait rentré dans les conseils de Dieu, avait rentré dans des choses dont il qualifie lui-même « sont trop grandes pour moi ». Là, Dieu avait, on est vraiment rendu comme les versets de la fin du livre, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, Éliphaz était qui? C'était le plus vieux. Dieu parle au plus vieux, parce qu'en parlant au plus vieux, il parle aux autres. Il dit, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. » Donc, les trois consolateurs, Dieu porte un jugement sévère sur leur tentative de consolation. Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Alors, le jugement que Dieu fait des interventions des amis de Job, c'est vraiment un jugement sévère. Job, dans un certain sens, est victorieux parce qu'il a réussi à démontrer qu'il est possible qu'un juste soit éprouvé sans que la cause de ses afflictions soit reliée à une vie de péché. Cependant, il demeure perplexe et ne comprend pas encore pleinement ce qui lui arrive. C'est juste, là, il est toujours il continue de faire confiance à Dieu, mais ce qui le caractérise là, au moment du chapitre 27, c'est qu'il ne comprend pas. Je vis une vie de sainteté, une vie de crainte de Dieu. Pourquoi tu permets que de pareilles choses arrivent dans ma vie? J'ai perdu mes enfants, il en avait 10. J'ai perdu ma fortune. J'ai perdu même toute estime, les gens qui l'entouraient, qui avaient, on va le voir dans les chapitres suivants, là. C'est-à-dire, il était hautement estimé dans son milieu. Et maintenant, il dit lui-même un petit peu plus tard que même ses serviteurs, dont il ne confierait même pas son bétail à ces gens-là, lui crachaient dessus. Alors, il avait mangé, comme on peut dire, une méchante débarque. Alors, il ne comprend pas, mais il y a une chose qui est caractéristique dans la vie de Job, et Dieu le souligne, c'est qu'il continue de faire confiance à Dieu. Il ne comprend pas, mais c'est juste à la fin du livre qu'on va voir que après que Dieu va lui avoir... Dieu, ce qui est intéressant du livre de Job, c'est que Dieu ne répond pas aux questions de Job. Il ne lui dit pas « Pourquoi je t'ai envoyé ça? » C'est lui qui pose des questions. Dieu pose des questions à Job, et Job en arrive à comprendre qu'il parle de choses qui sont trop élevées pour lui. Et là, il reconnaît... Et il reconnaît les desseins de Dieu. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu fait est sage. Tout ce que Dieu fait est plein d'intelligence. Alors, on va regarder les versets 1 à 6. Alors, je me suis trompé. Là, par la proclamation, c'est 1 à 6. C'est pas 1 à 4. Donc, Job va affirmer sa victoire par la proclamation. Il va proclamer. Voyez-vous, on va regarder la... C'est comme un serment. C'est pas visible. Quand on étudie le texte, qu'on fait juste le lire rapidement, on ne voit pas nécessairement ce que je vais vous dire là. Dans le verset 1 à 2, ça dit « Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit « Dieu qui me refuse justice est vivant, le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. » La formule d'introduction de ce discours diffère de celle que nous avons notée jusqu'à présent. Elle ne manque pas de solennité. Quand il dit « sous forme sentencieuse », qu'est-ce qu'il veut dire exactement par cela? Nos traductions, à nous, parlent de « discours sentencieux », mais dans la King James, on parle de « parabole ». C'est comme il utilise une forme de discours qui veut parler qu'il est en train d'élever le niveau des discussions. Donc, quand il parle de « sentencieuse », c'est comme là, après avoir constaté qu'il a été victorieux sur ses amis, il va élever le ton. Tu sais, des fois, on dit « élever le ton d'un discours ». Donc, il va parler avec des paroles d'un niveau plus élevé. Et ce terme-là introduit aussi un monologue. On sait c'est quoi un monologue? C'est quelqu'un qui est en avant, qui parle tout seul. Un dialogue, c'est quand deux personnes se parlent. Là, il ne parle plus avec ses amis, excepté un peu plus loin dans le verset 5. Mais dans le reste, à partir du chapitre 27, il ne dialogue plus avec ses amis. Il monte le ton des discussions à un niveau beaucoup plus élevé. C'est ça que veut dire quand on parle de sous forme sentencieuse. Alors, ça l'introduit un monologue et non une réponse à quelque interpellation. Mais Job, dans le verset 5, va parler encore à ses interlocuteurs, mais très peu. Elle reste, à partir du verset 28, aller jusqu'à temps que Élihu, le quatrième, intervienne. Il n'aura plus, c'est Job qui va continuer à parler. Alors, on aurait pu traduire le verset 1 par la tournure littérale. Job continua à élever la sentence. La sentence, pas dans le sens de justice, à élever le ton de tout ce qui s'est dit avant. Alors, c'est vraiment les idées d'autorité, de pesanteur et d'instruction qui sont présentes dans cette expression-là, forme sentencieuse. C'est comme s'il prenait conscience, j'ai eu victoire sur vos argumentations, et maintenant, voici, on va élever le niveau un peu de l'argumentation, c'est beaucoup plus élevé. Alors, la formule du verset 2, « Dieu est vivant », est une formule de serment. On sous-entend « aussi vrai que Dieu est vivant et que je dis ce que je dis est vrai ». Certaines cultures donnaient une telle valeur au serment que dans les cas litigieux, où les preuves faisaient défaut, celui-ci pouvait en tenir lieu. C'est un moyen de défense pour l'innocent qui n'avait pas d'autre moyen de se justifier des accusations portées contre lui. Dieu est invoqué comme garant en présupposant qu'il fera éclater la justice de l'inculpé et confondre ses adversaires. Et vous, c'est vraiment... c'est comme s'il amenait un serment. Et à l'époque, les serments, c'était quelque chose qui mettait fin à une discussion. Si on va dans Hébreux, chapitre 6, verset 16, on a vraiment cette idée-là. « Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à leurs différends. » Alors, il est vraiment en train, c'est comme s'il disait, « Voici ce que je vais vous dire, c'est comme si je disais, Dieu est vivant. » Parce que quand les Israélites utilisaient cette expression-là, c'était comme amener l'idée du serment. Alors, Job prête serment dans des circonstances paradoxales, car le Seigneur auquel il a recours est celui qui écarte son droit et remplit son âme d'amertume. C'est bizarre, il introduit un serment pour parler de vérité qu'il veut pour avancer, mais d'un autre côté, il dit « Dieu qui me refuse justice est vivant ». Il y a comme une contradiction dans les termes un peu. Après ça, il dit « Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant ». Alors, il y a quelque chose à l'intérieur de ces phrases là qu'il va comprendre plus tard qu'il dit des choses qui ne sont pas exactes concernant Dieu. Mais, déjà auparavant, il s'était plaint dans les réponses qu'il avait données à ses amis que Dieu l'avait rendu plein d'amertume et Dieu avait permis des choses qu'il ne comprenait pas. Mais, d'un autre côté, il a une foi dans la justice divine qui est si profondément ancrée en lui, malgré que Dieu lui envoie des choses qu'il ne comprend pas. D'ailleurs, dans la conclusion du livre, le bon droit de Job et la fausseté des soupçons émises par ses amis sont affirmées par le Seigneur. Donc, on a vu la forme du serment. Quand il commence son affaire avec sous forme sentencieuse, c'est que vraiment il veut élever le niveau des discussions. Maintenant, il va regarder dans le verset 3 et 4 la matière du serment. Quand il dit « Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux. » Alors Job ici s'engage solennellement à ne pas utiliser le mensonge ou la déception de façon extrêmement résolue et déterminée, et ceci tant qu'il sera vivant. Autrement dit, même si vous ne me croyez pas, c'est un peu comme s'il dirait à ses amis, même si vous ne me croyez pas, moi je sais que je n'ai pas dérogé de la crainte de Dieu, de la soumission à Dieu en toutes choses, autant qu'il est possible qu'un homme puisse le faire. Il n'a jamais dit qu'il ne commettait pas de péché, il a juste dit « le fil conducteur de ma vie est la volonté d'accomplir la volonté de Dieu ». Donc, on a la forme du serment, on a la matière du serment dans le verset 3 et 4, et on a l'explication du serment dans les versets 5 et 6, là qu'il dit « loin de moi la pensée de vous donner raison ». Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. Quand tu as la conscience tranquille, comment que tout le monde t'accusera d'une certaine chose que tu n'as pas fait? Comme la Bible dit, je pense à quelque part, je ne me souviens plus dans quel passage, il dit qu'on a l'assurance du lion. Parce que quand on sait qu'on n'a pas fait quelque chose, comment qu'on aurait une multitude d'ennemis qui s'acharnent à nous dire « t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça », on est, comme il dit lui-même, « je tiens à me justifier, je ne faiblirai pas, mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. » Alors l'expression « loin de moi » est aussi une formule de serment. Job ne consent d'aucune manière à justifier les discours de ses amis. Malgré leurs efforts, les amis n'ont pas convaincu Job de l'exactitude de leur point de vue, bien au contraire. Job défend son intégrité, c'est la qualité même que Dieu reconnaissait à Job. Alors, tournons au chapitre 1, la fin. C'est Dieu qui parlait. C'est pas un homme, c'est pas un ami de Job. Allons au chapitre 1 et regardons le verset 1 et regardons également le verset 8. Job 1.1, Job 1.8. Dans le verset Job 1.1, ça dit « Il y avait dans le pays d'Uts un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. » Dans le verset 8, l'Éternel dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. » Aimeriez-vous ça, entendre une parole venant directement de la bouche de l'Éternel qui dirait des pareilles paroles concernant votre propre personne? Bien entendu. Et lui, il a toujours mené une vie droite, intègre, craignant Dieu. Et ses amis sont en train de lui dire, ce qui t'arrive, ça ne peut pas être autrement que c'est parce que tu mènes une vie de péché et que tu es un hypocrite. Alors, il défend son intégrité, c'est la qualité même que Dieu reconnaissait à Job dans le chapitre 1, verset 1 et verset 8. Ce n'est pas, bien entendu, une perfection exempte de tout péché, mais une attitude de soumission sans réserve aux ordres divins. On n'est pas en train de dire ici, quand on dit qu'il était intègre et droit, craignant Dieu, que sa vie était exempte de tout péché. Non, c'est pas ça que ça dit. Il était dans la lignée de sa conduite en général. Qu'est-ce qu'il caractérisait? Il voulait se sanctifier, il craignait Dieu, il voulait se soumettre à ce que Dieu veut. Bien sûr, avec des écarts, mais pas des écarts graves comme les pécheurs qui sont ancrés dans le péché. Alors, on voit que le patriarche s'engage à rester irréprochable dans sa conduite jusqu'à la mort. Il n'entend à aucun prix récuser le témoignage que sa bonne conscience lui rend. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une perfection absolue, mais d'une justice relative qui exclut que les malheurs soient la conséquence d'une perversité cachée. Job ne tolérera pas qu'on la conteste. Alors, voyez-vous, l'idée fondamentale qu'il est en train de dire, c'est vraiment la proclamation que je fais serment, que je suis intègre, que j'ai demeuré intègre, et que vous ne pouvez pas me convaincre tant que j'aurai la vie en moi, que je vis les épreuves que je vis là à cause du péché. Maintenant, on va passer dans les versets 7 à 10. Job affirme sa victoire par la protestation. Il veut protester contre quoi? Il veut protester contre les allusions, les mensonges, des fois une allusion, c'est que ils ne l'ont pas dit directement, mais des fois ils l'ont dit presque directement aussi. Ils ont laissé planer des doutes sur sa conduite. Et lui, il veut protester. Donc, premièrement, il proclame. Deuxièmement, il proteste. Job ne peut absolument pas supporter qu'on le prenne pour un hypocrite. Il va donc protester vigoureusement. Dans le verset 7, il va dire « Que mon ennemi soit comme le méchant et mon adversaire comme l'impie. » Alors, on voit dans ce verset-là que Job voit l'hypocrisie comme la condition humaine la plus misérable. Pour lui, quelqu'un qui mène une vie d'hypocrisie, qui se dit chrétien, mais qui mène une vie de péché, pour lui, c'est la vie la plus misérable que quelqu'un ne peut pas vivre. D'après la loi de Moïse, le faux témoin devait subir le sort qui aurait été réservé à l'inculpé si la charge élevée contre lui avait été exacte. Autrement dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il l'accusait de choses qui n'étaient pas vraies, et les Écritures disent que si quelqu'un fait une accusation contre quelqu'un puis c'est faux, il mériterait d'avoir la condamnation qui serait supposée d'aller sur celui que tu accuses faussement. Alors, Deutéronome, chapitre 19, versets 16 à 20. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, il l'accusait d'hypocrisie, il l'accusait de mener une vie de péché, d'extorquer les pauvres, de ne pas aider les veuves, les orphelins. On continue, verset 17, « Les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors, vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Condamner un juste, c'était se mettre soi-même au rang des méchants, puisque l'accusation n'était pas fondée. Elle se retournait contre celui qui l'avait lancée. L'idée était donc la suivante, « Non, ce n'est pas à moi, mais à mon ennemi que le sort des méchants doit être réservé. » Proverbe 17, verset 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Deux choses. Absoudre un coupable quand tu sais qu'il est coupable, ça, l'Éternel a abomination. Abomination, ça veut dire que Dieu, ça lui fait littéralement lever le cœur. Ça, c'est quelque chose qui lui déplaît, mais royalement, comme on dit. Et il y a une autre chose qui lui déplaît royalement, donc celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste. Et c'est exactement ce que les amis de Job avaient fait. Ils l'avaient condamné. Alors, les Écritures nous enseignent que c'est des choses qui sont en abomination à l'Éternel. Dans la verset 8 et 9, « Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir? » Dans le verset 8, Job affirme que l'espérance de l'hypocrite ne sera pas couronnée, s'est trompé lui-même. « Quelle espérance reste-t-il à l'impie? » Tu sais, des fois, les personnes vivent des vies de méchanceté, de vol, de fraude, de tout ce que tu voudras. Puis ils s'imaginent, bon, ben, on va juste, après ça, ils vont creuser un trou, puis ils vont me mettre dedans, puis c'est fini. Alors, il y a une espérance que tout le mal qu'il a fait, il ne sera pas jugé pour ça. Mais ici, le verset dit, « Quelle espérance reste-t-il à l'impie? » Quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme. Bien entendu, il s'est illusionné lui-même en pensant qu'il pouvait faire du mal toute sa vie et qu'après ça, on creuse un trou pour le mettre dedans, puis c'est fini. Il y a d'autres choses après. Verset 9. Alors, il s'est trompé lui-même. Dans le verset 9, Job rappelle que le Seigneur n'écoute pas la prière du méchant. Quand il dit, est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir? Autrement dit, quelqu'un qui a choisi de vivre délibérément dans le péché, dans l'endurcissement, Dieu n'écoute pas ses prières. Même quand il va devenir bien dans le trouble jusqu'aux oreilles, comme on dit. Psaume 66, verset 18. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Et les méchants, les impies, qu'est-ce qu'ils font si ce n'est pas justement de concevoir l'iniquité dans leur cœur de façon constante, et non seulement le concevoir, mais l'exécuter. Proverbe 28, verset 9, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Alors, quand quelqu'un se détourne des Saintes Écritures volontairement, on voit ça souvent, on va essayer de reprendre quelqu'un, il se détourne volontairement, mais quand il vient dans le trouble, quand il vient dans la misère, quand il vient dans la souffrance, qu'est-ce qu'il fait? « Oh mon Dieu, sors-moi de cela! » Pensez-vous que Dieu l'écoute? Dieu ne l'écoute pas. C'est ça que ça dit. « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Quelque part, il est en train de dire que Dieu considère certaines prières comme irrecevables. Et elle est irrecevable selon quels critères? Elle est irrecevable selon les critères de détourner ton oreille pour ne pas écouter ce que la Bible dit. Dans le verset 10, il dit, « Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? » Il est en train de vouloir dire à ses amis, quelqu'un qui mène une vie comme ça, de constante désobéissance à Dieu, de méchanceté, est-ce que sa vie se caractérise par une vie de prière? Ce qu'il dit, « Fait-il du Tout-Puissant ses délices? » Quelqu'un qui est méchant, passe-tu sa vie à vouloir être proche de Dieu? Passe-tu sa vie à adresser des prières à Dieu? Il s'en contrefiche de Dieu. Alors, c'est ce qu'il est en train de dire. « Je ne suis pas ce que vous dites que je suis et les allusions que vous portez contre moi sont complètement fausses. » Occasionnellement, il arrive à l'impie de prier, mais ce n'est pas, bien entendu, sa démarche habituelle. Job, au contraire, s'adresse au Seigneur en toutes circonstances. Il l'a fait dans la prospérité. Je ne sais pas si vous vous souvenez au début. Tout allait bien. Ses enfants avaient des fêtes entre eux. Et il avait tellement de crainte de Dieu qu'il se disait, « Je vais quand même offrir un sacrifice au cas où mes enfants auraient fait quelque chose de mal. » Non seulement il avait une pleine conscience de faire attention pour lui-même mais il faisait attention également pour ses enfants. Et ça a été le fil constant de sa vie. Que ce soit dans le bonheur, dans la prospérité, s'adresser à Dieu. Il s'adresse pas toujours de façon... Des fois, il y a des questionnements qu'il fait à Dieu qui étaient boiteux un peu, mais il veut le reconnaître à la fin qu'il a mal parlé. Alors, il le fait avec l'énergie du désespoir dans le malheur également. Autrement dit, sa vie se caractérise par la vie de prière, que ce soit quand tout va bien ou que ce soit quand tout va mal. Toujours Dieu est présent dans sa vie. Dans le chapitre 21, Job avait montré que les méchants peuvent jouir d'avantages terrestres durables, mais ils ne bénéficient pas de la communion avec le Tout-Puissant. Au contraire, le juste peut tout perdre, richesse, famille, santé, réputation, mais il garde le témoignage d'une bonne conscience et la possibilité de s'approcher du trône de la grâce. Supposons que... je pense qu'il n'y a personne d'entre nous qui a connu des épreuves aussi profondes que ce que Job. Une supposition que Dieu permettrait que vous perdiez votre femme. Tout dans la même journée, là. Que vous perdiez vos enfants. Encore une fois, dans la même journée, parce que quand vous lisez Job au début, tout est arrivé en même temps. Et que vous perdiez votre maison, vos meubles, tous vos biens, et qu'en plus vous tombiez malade à un point où personne ne vous reconnaît, tellement vous êtes... Est-ce que on serait capable, comme croyant, de continuer à implorer l'Éternel et à croire que ce qu'il permet qui arrive dans nos vies soit quelque chose qui soit rempli d'amour, de miséricorde et de toutes les choses qu'on peut dire de Dieu, de bonté? Est-ce qu'on soit capable de faire ça? Je pense que le livre de Job est très important pour nous en ce 21e siècle, parce que ça peut arriver que l'Éternel permette encore dans nos vies des épreuves qui ne seront peut-être pas aussi profondes que celles de Job, mais qu'on puisse garder au moins l'attitude de Job quand Dieu nous éprouve. De dire, je sais que je continue à craindre Dieu, je sais que je continue à me sanctifier et à vouloir me soumettre au Seigneur, et s'il permet ces choses-là, je continue de lui faire confiance comme de quoi il ne permet pas ces choses-là inutilement. Il y a de la sagesse là-dedans. Il y a même de l'amour. On a de la misère à comprendre ça, nous autres. On souffre. Non, Dieu ne m'aime plus. Quand tu es dans le bonheur, tout va bien, Dieu me bénit. Est-ce que Dieu, quand il t'envoie des épreuves, est-ce que ce n'est pas une bénédiction encore? Oui. Bon, versets 11 à 23, Job affirme sa victoire par la profession. Il va ramener des idées qui semblent contradictoires avec ce qu'il avait déjà affirmé concernant comment les méchants sont traités par le Seigneur. Il avait déjà posé des questions à ses amis. « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi Dieu semble... avoir de l'impunité envers les méchants. » L'impunité, ça veut dire qu'il n'intervient pas. Parce qu'il avait montré, il avait posé des questions que ces gens-là font toutes sortes de choses et que Dieu n'intervient pas nécessairement. Et ici, il va revenir avec des idées qui semblent contredire les choses qu'il avait déjà dit. Est-ce que c'est contradictoire? Moi, je ne le vois pas comme une contradiction, je le vois comme quelque chose de complémentaire. Il est en train de dire, oui, Dieu peut permettre qu'un méchant traverse sa vie sans trop de jugement divin, mais parfois, il permet que des méchants soient jugés sur la terre, temporellement, et, chose certaine, c'est que s'il ne l'est pas sur la terre, il va l'être dans l'autre monde. Est-ce que c'est contradictoire? Aucunement. C'est complémentaire. Alors, dans le chapitre 24, Job avait mis ses interlocuteurs et consolateurs au défi de lui expliquer pourquoi les méchants semblent jouir de l'impunité dans cette vie et que le Seigneur n'intervenait pas automatiquement et systématiquement pour les punir dès leur vie terrestre. Les trois amis, si on se souvient des chapitres précédents, n'avait pas su répondre. Donc, les arguments de Job étaient irréfutables. Dans les versets 11 à 23 du chapitre 27, donc notre chapitre de cette semaine, Job veut exprimer avec force sa foi au gouvernement de Dieu avec les hommes. Même si ça arrive que Dieu les laisse passer, puis n'intervient pas, puis les juge pas, il fait encore confiance à la manière dont Dieu gouverne les hommes, tant individuellement que collectivement. Alors, son explication est vraiment complémentaire. Versets 11 et 12, il dit, « Je vous enseignerai les voies de Dieu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. » Mais vous les connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laisser aller à de vaines pensées? Job est d'accord avec ses trois amis pour affirmer que Dieu est juste. Seulement de cet axiome, qui est une proposition considérée comme évidente et admise sans démonstration, on parle d'un axiome, c'est quand on parle de quelque chose qui est accepté comme c'est évident et qu'on n'a pas besoin de démontrer. Mais de l'axiome que Dieu est juste, lui, il tire des conclusions qui sont différentes des leurs. Eliphaz et ses compagnons étaient sûrs que Dieu étant juste, que les souffrances de Job étaient méritées. Et il le rangeait parmi les méchants qui, à bon droit, sont punis. Job, au contraire, pense que Dieu étant juste, lui-même sera en fin de compte justifié. Et les méchants, dont il se démarque, condamnés, même s'ils sont parfois, jusqu'à leur mort, mènent une vie humainement enviable. La vision de Job est plus large et plus profonde que ses trois amis. Les trois amis faisaient une relation. Si tu as des grandes épreuves, c'est parce que tu vis dans le péché de façon hypocrite. Lui dit, je crois que Dieu est juste, il n'exerce pas toujours sa justice sur la terre temporellement, mais il continue de croire que Dieu va l'exercer, et parfois l'exerce sur la terre, et il va sûrement l'exercer dans l'éternité. Dans les versets 13 à 18, Job chapitre 7, verset 13, « Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. » Il fait une affirmation générale. Il dit, c'est comme s'il dirait, en général, ce que vous avez dit concernant le sort des méchants sur la terre, c'est vrai que Dieu punit parfois. On en a des exemples. La commission Charbonneau, des personnes qui étaient à l'eau du pavé, qui avaient des immenses bateaux, des fortunes à tout casser, là, sont en justice, sont en train de perdre leur nom, leur réputation, leur fortune, etc. Dieu juge parfois, les hommes sur la terre, mais pas tout le temps. Alors, il dit l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. Là, c'est une affirmation générale. Le méchant n'est pas toujours pauvre et affligé, comme la théologie défectueuse des amis de Job le supposait. Cependant, leur richesse et leur succès sont fragiles, instables et remplis d'insécurité. On va reprendre la première idée, dans le verset 14 et 15. Il parle d'une destinée qui est misérable dans sa fragilité. Dans les versets 14 et 15, il dit, « S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive, et ses rejetons manquent de pain. Ceux qui échappent seront enterrés par la peste, et leurs veuves ne les pleurent pas. » Donc, il parle ici de la famille du méchant. Que l'épée ou le glaive, c'est quelque chose dont les Écritures nous enseignent, c'est un des quatre fléaux par lesquels Dieu punit ses adversaires. Alors, il parle de l'épée ou du glaive, mais des fois aussi, il parle de les bêtes féroces, de la famine et de la peste. Vous regardez à l'intérieur, il dit qu'il manque de pain. Dans le verset 14. Ézéchiel 14, 21 parle des quatre fléaux que Dieu envoie aux méchants. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem mes quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste pour en exterminer les hommes et les bêtes. Voyez-vous qu'est-ce qu'il dit dans le texte? S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive. Donc, autrement dit, dans la famille, il va y avoir de la guerre. C'est pas nécessairement une vraie guerre, là, comme quand les hommes se tirent dessus, mais il va y avoir du trouble en très grande abondance. Après ça, il dit, « Ces rejetons manquent de pain. » Est-ce qu'on ne parle pas ici de famine? Un des jugements que Dieu envoie. Après ça, ceux qui échappent sont enterrés par la peste. On parle ici de les quatre châtiments, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste. Et, il dit, les veuves ne le pleurent pas. Autrement dit, quand ces personnes-là sortent du monde, ça n'amène pas aucun regret à qui que ce soit. Aussi, ça l'amène une destinée misérable dans son insécurité. Ces gens-là vivent dans l'insécurité. Donc, on parle de la fortune. Il a commencé par la famille. Après ça, il va parler de la fortune de ces gens-là. Dans Job 18, 19, il dit, « Sa maison est comme celle que bâtit la teigne. » On ne parle pas de la maison, c'est de la physique. Là. On parle de son organisation, toute sa... Ça peut être ses chalets, ses bateaux. On parle de sa maison, tout ce qui lui appartient. Elle est comme celle que bâtit la teigne. Une teigne, c'est comme un petit insecte que c'est pas vraiment solide ce qu'il construit. Comme la cabane que fait un gardien. À l'époque, quand on voulait protéger, disons, les vignes ou les choses comme ça, ceux qui gardaient ça, ils se faisaient des cabanes. Ils faisaient des cabanes avec des bouts de planches. C'était juste pour se protéger du soleil. Alors, c'était comme des cabanes construites en bric-à-brac, c'était pas cher, ça pouvait tomber à n'importe quel temps. Alors, il dit, sa maison, maison du riche, du méchant, de l'impie, est comme celle que bâtit la teigne, donc aucune solidité, comme la cabane que fait un gardien. Il se couche riche et meurt dépouillé. Il ouvre les yeux et tout a disparu. Avez-vous déjà entendu parler de gens qui ont eu des fortunes immenses que du jour au lendemain, Dieu a permis qu'ils perdent tout? Alors, il est en train de démontrer que la destinée de ces gens-là est misérable parce qu'ils vivent dans la continuelle insécurité. Le méchant verra sa maison détruite comme un château de cartes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des fois à la télévision, il y a des gens qui font des châteaux de cartes. Ils sont vraiment en haut. Là. C'est beau, tu regardes ça de l'extérieur, tu as vu, ça fait... Ça s'écroule. Ben, Dieu est en train de parler que leur maison, leur organisation, c'est comme un château de cartes et que le tout, la destruction, ça va arriver soudainement et rapidement. Parce que quand il dit « il se couche riche, il meurt dépouillé, il ouvre les yeux, tout a disparu », ça parle de soudaineté, ça parle de rapidité. Autrement dit, tu es riche aujourd'hui, puis il peut arriver... Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait eu celui qui avait... voyons, je ne me souviens plus de son nom. On a écouté une émission récemment sur lui. Malenfant, au Québec, je me souviens, il était un temps où il y avait sa photo sur à peu près toutes la photographie sur la revue Commerce. Tout le monde l'adulait comme de quoi il était un personnage d'affaires au Québec qui avait eu une croissance phénoménale. Je pense que quand il a fait faillite, je pense qu'il y avait quelque chose comme 35-40 autos dans son garage et c'était toutes des autos de grand luxe. Alors, il avait vraiment eu beaucoup de richesses accumulées. Là. Et, à un moment donné, la Caisse populaire a décidé de rappeler ses prêts. Et du jour au lendemain, toute son organisation s'est écroulée. Au Québec, ça a été... Et lui, bien sûr, il accusait les syndicats, mais en tout cas, c'est une longue histoire. Mais dans le fond, juste pour une illustration comme de quoi le Seigneur peut, du jour au lendemain, enlever les biens d'une personne avec une rapidité qu'on n'a même pas. Ça peut se faire extrêmement rapide. Maintenant, dans les versets 20 à 23, il veut parler du gouvernement divin dans sa rigueur. OK, des fois, il y en a qui semblent passer à travers, mais Dieu est rigoureux quand même. S'il n'exerce pas sa rigueur dans cette vie, il va l'exercer dans l'autre. Versets 20 à 23, les terreurs le surprennent comme des eaux. Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'Orient l'emporte, il s'en va. Il l'arrache violemment de sa demeure. Dieu lance sans pitié des traits contre lui. Et le méchant voudrait fuir pour les éviter. Et le verset 23, on bat des mains à sa chute et on le siffle à son départ. Donc, c'est une destinée misérable pour sa propre personne. La mort sera soudaine et inattendue, comme les expressions parlent dans les versets 21, 20 à 23. et le jugement de Dieu. Quand il dit qu'il veut se pousser, le méchant voudrait fuir pour les éviter. Autrement dit, quand Dieu décide d'envoyer ses jugements, tu ne peux pas les éviter. Inévitable et implacable. Quand on parle de rigueur, quand Dieu décide que c'est fini, c'est fini. Une destinée aussi misérable dans son éternité, la sévérité du jugement divin est ici évoquée, impitoyable, quand il dit « Dieu lance sans pitié des traits contre lui et le méchant voudrait fuir pour les éviter ». Bien sûr, le jugement final, c'est quand Dieu va amener en jugement toutes les pensées qu'il a eues, toutes les paroles qu'il a dites, toutes les actions qu'il a faites, toutes les omissions, toutes les désobéissances qu'il a faites face à ce qui était révélé. Il va tout juger ça, bien sûr, sa condamnation, ça va être l'enfer éternel. Et le verset 23 nous dit que même après sa mort, ce qui va demeurer dans la tête des gens le concernant. Voyez-vous, des fois, je lis des livres de théologie de personnes qui sont mortes là, 200-300 ans. On lit les réformateurs, par exemple, 1600 que, ça fait 400 ans, là. Puis on a encore dans notre mémoire leur nom, pour nous, signifie quelque chose de productif, fructueux, intéressant, utile, et on pourrait allonger la liste. Mais qu'est-ce qu'il y en est pour les méchants? Verset 23. Le méchant ne laisse qu'un souvenir de mépris dans l'esprit des hommes. Verset 23 qui dit « On bat des mains à sa chute et on le siffle à son départ. » Pas un sifflet pour l'approuver, mais un sifflet, c'est comme une expression de mépris. Quand la personne meurt, le méchant, il ne laisse dans la tête des gens qu'une idée d'amertume. Quand on lit Proverbes au chapitre 10, verset 7, on a une belle illustration de ça. La mémoire du juste est en abomination. La mémoire du juste est en bénédiction. Moi, je prends par exemple un homme qui est mort, Arthur W. Pink. Moi, je me sers souvent de ses écrits. Alors, ça dit que la mémoire du juste. Alors, quand moi je me souviens d'Arthur Pink et que je lis ce qu'il a écrit, je suis béni. La mémoire du juste est en bénédiction. Même s'il est décédé, il continue encore de faire du bien dans l'esprit de milliers de personnes. N'est-ce pas la même chose avec les réformateurs? Mais, la deuxième partie du verset 7 du chapitre 10 de Proverbes, « Mais le nom des méchants tombe en pourriture. » C'est fort comme expression. Hein? Un, son nom devient synonyme de bénédiction. L'autre, son nom devient synonyme de pourriture. Alors, Job est en train de leur dire, « Oui, je crois en la justice de Dieu, qu'elle ne s'exerce pas toujours sur la terre, mais qu'un jour, elle va s'exercer. » Mais parfois, elle s'exerce aussi sur la terre par toutes sortes de moyens, sur la famille, sur la fragilité de ta fortune, etc., etc. Quelles sont les applications, quelles leçons on devrait retenir de cette brève étude du chapitre 27 de Job? La première, je dirais, l'intégrité chrétienne consiste à une vie de soumission au Seigneur, à une vie de poursuite de la pureté, à une bonne conscience et à une foi et une marche sincère. Si je disais, je prenais chacun de vous en particulier, puis je disais, cette personne-là, selon moi, est intègre, ça voudrait dire que je suis conscient que vous avez une vie de soumission au Seigneur, que vous avez une vie de poursuite de la sanctification, que vous avez une bonne conscience et que vous avez une foi et une marche sincère. C'est ce que ça veut dire, l'intégrité. Lorsqu'elle est authentique, l'intégrité, nous devons la défendre bec et ongle contre les fausses accusations et les mensonges nous concernant. Si vous avez déjà lu des biographies d'hommes ou de femmes de Dieu, vous allez voir que presque toujours dans leur vie, Dieu a permis que ces gens-là soient accusés des fois des affaires qu'ils n'avaient pas faites d'aucune façon, mais c'est le malin qui cherchait à détruire leur œuvre. Est-ce que quand on est sûr qu'on n'a pas fait quelque chose, on parlait tantôt, si tu as vécu dans l'intégrité et qu'on essaye d'insinuer que tu mènes une vie de péché dans la constance, bien sûr, tu gardes ton calme intérieur. Quand on dit « on défend notre intégrité bec et ongle », tu es en train de dire « non, tu ne me feras pas porter le chapeau quand tu ne me fais pas ». Quand tu me fais, OK, mais quand tu ne me fais pas, je ne le porte pas. Deuxième application, n'oublions pas que Satan cherchera constamment à détruire notre assurance, à troubler notre conscience et à affaiblir notre foi en nous présentant des idées fausses concernant le Seigneur. Puis quelles seraient les idées fausses qu'il va essayer de vous mettre à l'esprit? Dieu t'a oublié. Dieu, il est dur avec toi. Oh, Dieu, il t'aime plus ou moins. Oh, Dieu ne se soucie pas de toi. Dieu, il ne t'écoute plus. Tu as remarqué ça récemment, le Seigneur ne t'écoute plus. Il va continuellement essayer de semer ces idées-là dans votre esprit. Prions le Seigneur de nous garder soigneusement de tomber dans ces pièges-là. Troisième application, nous devons faire une confiance absolue à la rectitude du gouvernement de Dieu sur la vie des hommes, tant collectivement qu'individuellement. Que notre regard ne soit pas aveuglé par l'instabilité et la fragilité du terrestre et du temporel. La justice de Dieu s'exercera de façon parfaite, mais en son temps et à sa manière. Bénissons le Seigneur pour sa sagesse, sa justice et sa souveraineté sur nos vies. Amen.